Voilà, Christ est notre paix. Et pour avoir la paix avec Dieu, la paix de Dieu, il faut faire la paix avec Dieu, venir à Jésus-Christ. Nous avons commencé la semaine dernière une petite série dans le livre du prophète Habacuc. Et on a rappelé que ce livre est rangé dans la partie qu'on appelle les petits prophètes. Il y a 12 petits prophètes. Et ils ne sont pas petits parce qu'ils sont moins importants que ceux qu'on appelle les grands, mais c'est simplement par la taille, souvent de leur écrit. Pas par la teneur, mais par la taille, hein, en termes de volume, qui sont appelés petits prophètes. Et cette prophétie d'Habacuc a été écrite environ il y a 600 ans avant Jésus-Christ. Et le prophète Habacuc est un prophète, un homme qui, nous l'avons dit, aimait son peuple, aimait Dieu. Et il était soucieux de l'état spirituel et moral décadent de son peuple, le peuple de Juda. Alors, on se rappelle que ce prophète, face à cette situation décadente qu'il y avait dans son pays, eh bien, il crie à Dieu. Il crie à Dieu avec persévérance. Et il avait l'impression que le ciel était sourd, que Dieu était sourd, qu'il était inactif, qu'il n'intervenait pas. Et il disait, « Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ?» Il dit, « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié à la violence et tu ne secours pas. » Voilà quel était son cri. Ici, il avait l'impression qu'il priait, qu'il suppliait Dieu, mais qu'il n'intervenait pas. Et puis, nous avons considéré le fait que Dieu a répondu à Habacuc, mais que la réponse que Dieu lui a donnée l'a plongé encore plus dans l'incompréhension. Il était stupéfait et il ne comprenait pas la méthode que Dieu a utilisée, voulait utiliser en tout cas pour châtier son propre peuple qu'il aimait, avec lequel il était entré dans une alliance. Et donc Dieu lui dit qu'il va utiliser un peuple qui est furibond pour venir châtier son peuple de Juda. Et Habacuc dit à Dieu, mais regardez au premier chapitre et au verset 12, il dit, n'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi ? Voilà sa question. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? Quelque part, il dit, voilà, le peuple chaldéen que tu as suscité comme instrument de ta justice est pire que le peuple de Juda que tu veux châtier. Et tu peux pas, tu es un Dieu saint, tu peux pas supporter que le plus méchant soit celui qui va châtier le plus juste. Et donc c'était une incompréhension parce que tu es un Dieu saint, dit-il. Et c'est une incompréhension pour Habacuc. Et face à cette question troublante, eh bien il dit au chapitre 2, verset 1, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais à ma plainte. Donc il va se tourner vers Dieu et puis attendre vraiment ce que Dieu va pouvoir lui dire. Et c'est ce que nous voulons considérer ce matin. Nous voulons regarder les trois premiers versets de ce chapitre 2. Je vous les lis. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerai à ma plainte. Verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Allons prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole et nous te demandons que tu nous aides par ton esprit à saisir la vérité de ta parole, que dans ta grâce tu puisses appliquer ta parole dans nos cœurs et ce que nous ne connaissons pas, que tu puisses nous le faire connaître. Seigneur, ce que nous ne pratiquons pas, que tu puisses nous faire le pratiquer. Seigneur, nous te prions vraiment que tu agisses au-dedans de nos cœurs par ton esprit. Et nous te demandons vraiment la grâce de pouvoir être comme Habacuc, attentif, attendant ce qui vient de toi, pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Amen. Voilà, donc j'ai intitulé ce message ce matin « Bien attendre la réponse de Dieu ». On pourrait dire « Comment bien attendre la réponse de Dieu ?» Parce que c'est ce que fait Habacuc ici. Hein. Après, souvent quand on a des incompréhensions, beaucoup de choses qui se passent dans notre vie, parfois ça peut être des situations au niveau de la santé, ça peut être au niveau économique, ça peut être dans beaucoup d'autres choses, ou ça peut être simplement voilà, l'incompréhension par rapport à tout ce qui se passe et la certitude qu'il y a un Dieu vivant, puissant et saint et sage qui existe, et les choses semblent aller sans dessus-dessous. Eh bien, quand on a tous ces questionnements qui remontent parfois en nous, eh bien, comment est-ce qu'on attend la réponse de Dieu? Parfois, on questionne Dieu. Hein, pourquoi? Pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? Pourquoi est-ce que ma situation ne s'améliore pas, etc.? Et ici, avec Habacuc, on voit que c'est des questions qui ne sont pas des questions seulement modernes, hein, c'est des questions qui existaient déjà à l'époque du prophète Habacuc. Même regardez un petit peu dans le psalmiste, hein, le psaume 73, il y a un chant que nous chantons qui est tiré de ce psaume, où il est question du problème de la prospérité des méchants, où le psalmiste ne comprend pas. Il dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, dit-il, mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent leurs discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale leur l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais « Je veux parler comme eux », voici je trahirais la race des enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Et je pense qu'on peut se retrouver dans ce genre de questionnement, de choses qui nous dépassent, de pourquoi, comme Habacuc, comme le psalmiste ici. On n'a pas lu la suite, mais le psalmiste dit quand il a regardé à la fin des choses, là, il a pu comprendre. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici aussi avec Habacuc. Alors comment Habacuc attend la réponse de Dieu? Il dit « Voilà, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » On voit bien ici qu'il est en train, c'est un homme qui ne comprend pas, mais qui est en train, même quand Dieu a révélé quelque chose, mais qu'il est en train d'attendre encore plus de lumière de la part de Dieu. Alors comment bien attendre la réponse de Dieu? Premièrement, je voulais voir deux choses seulement ce matin. Bien attendre la réponse de Dieu, c'est s'attendre à la réponse de Dieu. Je le redis, hein, attendre la réponse de Dieu, c'est s'attendre à la réponse de Dieu. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais. Ici, le verbe qui est traduit par veiller, ailleurs est traduit par regarder vers Dieu. Par exemple, en Michée 7:7, on le lit ainsi, il dit, pour moi, je regardais vers l'Éternel. C'est le même mot ici qu'Habakkuk utilise en disant veillez. Je regardais vers l'Éternel et je mettrai mon espérance. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel et je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. On voit qu'il y a là une notion même d'attente et d'espérance en Dieu quand Habakkuk dit je veillais. J'étais à mon poste et je veillais. Le psaume 5, verset 4 dit l'Éternel, on appelle ça le psaume du matin souvent, hein, parce qu'il parle du matin, il dit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde ». C'est le même mot ici, qui est utilisé comme « regarder », je veille. C'est-à-dire, c'est une attitude dans laquelle on s'attend à Dieu. C'est une attente dans laquelle on s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose. Ça nous rappelle l'histoire de ce boiteux à la belle porte du temple. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Si vous ne la connaissez pas, donc je vous invite à lire dans le livre des Actes où il y a Pierre et Jean qui vont à l'heure de la prière, qui montent au temple. Et puis, ils rencontrent un boiteux qui est là, qu'on place tous les jours à la belle porte du temple. Et puis, ce boiteux, la Bible dit qu'il Pierre et Jean fixent les yeux sur lui. Il le regarde et puis il lui dit « Regarde-nous ». Et il les regarde attentivement et la Bible dit qu'il les regarde s'attendant à recevoir de quelque chose. Il est là « Regarde-nous ». Et puis il regarde et il dit « Certainement, ils vont me donner quelque chose hein ». Il y a quelque chose qui va se passer. C'est un petit peu, je pense que c'est cette même attitude-là. Puis alors, la Bible dit que Pierre et Jean, disent, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il a eu plus que ce qu'il s'attendait à recevoir. Il s'attendait à recevoir une petite pièce, peut-être comme c'était d'habitude, et là, il a reçu une pleine guérison. Mais ce que je vais souligner ici, c'est que le texte dit qu'il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Et cette attente-là, c'est celle d'Habakkuk qui est à son poste, dit-il, et qui s'attend, il veille, il attend Dieu, mais il s'attend à ce que Dieu réponde ici. Donc Habakkuk n'indique pas ici qu'il attendait passivement, mais qu'il s'attendait à Dieu, on pourrait dire, activement, certain que sa réponse allait venir. Son souci n'est pas de savoir si Dieu répondrait ou non, mais plutôt ce que Dieu va répondre. Regardez comment il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pas pour voir si l'Éternel me dirait quelque chose, mais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il était déjà certain que Dieu allait lui répondre. Il s'attend à une réponse de la part de Dieu. Il y a une différence entre attendre et s'attendre à. N'est-ce pas? Je peux m'attendre à la pluie, attendre à la pluie et ne pas m'attendre à ce qu'il pleuve. Attendre la sécheresse, on peut dire, on attend la pluie, hein. Elle ne vient pas, on l'attend, voilà, de manière passive. Mais je peux l'attendre, mais sans m'attendre à ce qu'il pleuve. Et c'est Spurgeon qui raconte cette histoire de cette réunion de prière qui a eu lieu un jour, et puis il y a cet enfant qui a pensé à prendre son parapluie parce que c'était pendant un temps probablement de sécheresse, et le but de la réunion de prière c'était de prier pour qu'il pleuve, pour la pluie. Et il montre ainsi que voilà, cet enfant va pour prier. Il attend la pluie comme tout le monde, mais il s'attend à ce qu'il pleuve parce qu'il prend un parapluie et il se dit que Dieu va répondre à cette pluie. Donc, il s'attend à la réponse de Dieu. Je ne sais pas si vous faites sentir la différence entre le fait simplement de dire « j'attends » et puis le fait de s'attendre à. d'accord, d'être certain que la chose va se passer et de se mettre dans des dispositions telles qu'on puisse la recevoir quand elle va se réaliser ici. Donc il peut arriver que nous prions pour une chose et ensuite, aussitôt la prière formulée, nous passons à autre chose. On a déjà oublié. On prie pour quelque chose. On prie parfois même pour la conversion de quelqu'un. Puis après, on oublie. On ne s'attend pas forcément à ce que Dieu réponde à notre prière. Et c'est quelque chose qui est terrible, parce que ça peut nous arriver en tant qu'enfant de Dieu, à demander et à ne pas s'attendre à ce que Dieu donne. Il n'y a pas de recherche de la réponse de Dieu, comme la sentinelle ici, Habacuc, qui scrute au loin pour voir ce qui va se passer. Il s'attend à voir quelque chose qui va se passer. Ou comme le prophète Élie, vous vous rappelez le prophète Élie quand il a prié pour que la pluie revienne, la Bible dit, alors on n'a pas le temps de lire ce passage, mais dans 1 Rois chapitre 18 verset 42 à 44, il envoie son serviteur pour voir à chaque fois. Et puis lui, il a la tête dans les genoux et puis il prie et il renvoie, je crois, 7 fois son serviteur jusqu'à ce qu'à la 7e fois, il dit, je vois un petit nuage qui a la largeur de la paume d'une main. Et puis Élie dit, va avertir Acab, qu'il se dépêche afin qu'il puisse arriver avant que la pluie ne vienne. Il prie pour la pluie, mais il s'attend tellement qu'il envoie à chaque fois son serviteur pour regarder. C'est cette attitude-là, je crois, qui est décrite ici de la part d'Habacuc quand il dit lui-même qu'il veillait pour voir ce que l'Éternel dirait. Il s'attend à la réponse de Dieu. L'absence de réponse de Dieu tient souvent au fait que l'on ne s'attende pas à lui. La prière n'est parfois qu'une posture, parfois pour nous. Ça peut être qu'une posture qui donne bonne conscience. J'ai prié, etc. Mais on ne s'attend pas forcément. Et parfois on prie, et Dieu, mais on cherche tout de suite une solution ailleurs de manière humaine. C'est la preuve qu'on ne s'attend pas à Dieu. Mais Dieu veut que l'on s'attende à lui. Et il veut honorer ceux qui s'attendent à lui. Et l'apôtre Jacques souligne le fait qu'il est important de ne pas douter même quand on prie de Dieu. Il dit ceci, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, donc c'est dans Jacques chapitre 1, vers le verset 6, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, dit-il, et elle lui sera donnée. Mais, ajoute-t-il, qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire, il dit, celui qui demande, mais qui ne s'attend même pas à ce que Dieu réponde, parce qu'il doute, il dit, ouais, j'ai demandé ça à Dieu, mais... J'ai demandé, comme quand on dépose un papier à l'administration, on a fait une demande, mais pour avoir un logement, je ne sais pas où, et puis finalement, ça dure des années, on ne s'attend pas à recevoir quelque chose, on a juste déposé la demande. Mais si quelqu'un prie de cette manière-là, qu'il ne s'attende pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu est honoré quand on s'attend vraiment à lui. Alors, qu'est-ce qu'attendre que s'attendre à Dieu ? Et l'une des questions que l'on pose souvent, c'est comment savoir la volonté de Dieu dans tel ou tel domaine de ma vie. On cherche parfois cette volonté dans l'interprétation des circonstances, ça peut arriver, ou parfois dans la facilité plus ou moins grande que l'on a pour emprunter un certain chemin. On appelle ça les portes ouvertes. On dit Dieu a ouvert une porte et donc Dieu a fermé la porte. Bon, le moyen par lequel Dieu parle de manière sûr, c'est sa parole. Il parle par sa parole. Bien sûr, Dieu est grand. Il peut aussi, dans sa providence, arranger les circonstances d'une manière telle que sa volonté se fasse pour ses enfants. Mais les choses se passent toujours en accord avec sa parole. Habacuc dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et puis après, il ajoute, et l'Éternel m'adressa la parole. Et c'est par sa parole que nous pouvons connaître sa volonté et que nous pouvons avoir une véritable réponse de la part de Dieu. La parole était directement ainsi insufflée au prophète. Aujourd'hui, nous l'avons entièrement dans l'Écriture. Nous l'avons dans l'Écriture. Et nous pouvons connaître la volonté de Dieu à travers l'Écriture. Nous pouvons connaître la réponse aux questions que nous avons à travers l'Écriture. Bien sûr, il y a des endroits où ce ne sera pas forcément toujours strictement écrit. Voilà ce que toi, un tel, tu dois faire dans telle situation. Mais nous avons dans la parole de Dieu tous les principes que nous pouvons suivre, que nous pouvons connaître de Dieu, que nous pouvons entendre aussi de la part des autres et qui nous conduisent dans le chemin que nous devons adopter. Et je crois qu'il faut parfois faire les choses de la manière naturelle et obéissante qui soit, un peu comme je pense à Joseph et Marie, hein, lorsqu'il y avait le recensement et puis qu'ils ont dû partir pour le recensement, eh bien, ils ne se sont pas posé la question « Que dit l'Ancien Testament? Est-ce que je dois partir ou pas ?» Non, c'était une obéissance qu'ils pouvaient avoir tout naturellement. Donc, pour eux, la volonté de Dieu, c'était qu'ils obéissent tout simplement. Ils ont obéi à cette instruction gouvernementale qui était donnée. Tout simplement. Donc, c'est de marcher aussi dans la soumission aux autorités. Donc, et ça vient d'où? Ça vient de l'Écriture, de marcher de la soumission de l'autorité. Donc, on voit tout ce que l'on aura comme questionnement, comme situation particulière dans notre vie, nous pouvons avoir dans la parole de Dieu la réponse à cela. Dieu peut mettre aussi sur notre pensée un fardeau. Il peut diriger aussi nos pas par les circonstances. Mais vraiment, je reviens, le moyen pour nous de connaître sa volonté, comme pour Habacuc d'ailleurs, c'est de nous reposer sur la parole de Dieu. Nous avons dans notre catéchisme cette question, hein, qu'est-ce que les Saintes Écritures? Et les Saintes Écritures, on dit l'Ancien et le Nouveau Testament, constituent la parole de Dieu ainsi que l'unique règle, en matière d'obéissance et de foi. L'unique règle en matière d'obéissance et de foi. Et donc, s'attendre à Dieu, c'est rechercher, comme Habacuc, ce que Dieu dit dans sa parole, ce que Dieu dira, ce que Dieu a déjà dit. Et dans la difficulté, c'est vrai qu'on est vite tenté de prendre les choses en main, mais ce dont on a besoin, c'est de s'accrocher chaque fois à ce que Dieu a dit. Et on a des exemples dans la Bible de personnes qui ne se sont pas cantonnés simplement à ce que Dieu a dit, et puis qui ont pris des décisions parce qu'ils cherchaient à ce moment-là la volonté de Dieu. Ils ont pris des décisions qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Saül, par exemple, j'en cite juste un. Saül, qui ne voit pas revenir Samuel, eh bien, il prend sur lui et s'arroge le droit d'offrir les sacrifices. Hein. Et donc ici, pourquoi? Parce que il ne s'est pas soumis à ce que Samuel lui avait déjà dit, d'attendre justement, et qu'il viendrait. Il a attendu, et ne voyant pas Samuel arriver, il s'est dit qu'il fallait qu'il se fasse violence quelque part, mais en ce faisant, il a désobéi à la parole de Dieu. Donc, attendre la réponse de Dieu, c'est vraiment s'attendre à ce que Dieu réponde. Hein. À ce que Dieu va dire, s'attendre à la réponse de Dieu d'une manière en nous appuyant vraiment sur sa parole. Deuxième chose que je voudrais souligner ici, c'est qu'attendre la réponse de Dieu, c'est attendre le temps de Dieu. Donc premièrement, on a vu attendre la réponse de Dieu, c'est s'attendre vraiment à Dieu lui-même, à sa réponse, à la réponse de Dieu. Mais attendre, deuxièmement, la réponse de Dieu, c'est aussi attendre le temps de Dieu. Regardons le verset 2 ici, il dit « L'Éternel m'adressa la parole et dit « Écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. » C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Parfois, c'est une prophétie de la fin, ça dépend selon la traduction que vous avez. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Remarquons que Dieu répond à Habacuc, non pas en lui expliquant pourquoi il choisit comme instrument de châtiment un peuple qui est pire que le peuple qu'il veut châtier. Mais il lui répond en lui donnant une prophétie dont il faut attendre l'accomplissement. Pourquoi tu prends ce peuple, toi qui es simple? Et Dieu lui dit, voilà, écris ces choses, hein. C'est une prophétie que je vais te donner. Donc il dit tout un tas de choses derrière, c'est une prophétie que je vais te donner, écris là. Et il ne donne pas vraiment à Habacuc la raison pour laquelle il a choisi les Chaldéens pour punir Juda. Et en fait, on pourrait dire ici que Dieu fait appel à la patience du prophète. C'est comme si Habacuc avait dit « J'attends la réponse de Dieu » et puis Dieu lui répond « Attends. » J'attends, je me mets là, je veille, j'attends, je me tourne vers Dieu et je m'attends à lui. Et Dieu répond et Dieu lui dit « Attends l'accomplissement de la prophétie qu'il va donner ici. » Il dit, si elle tarde, attends-la. Et nous pouvons quand même ici déjà évoquer peut-être plusieurs choses, plusieurs éléments dans la réponse que Dieu donne au prophète. Premièrement, ici, on voit que Dieu répond toujours à la prière de ses enfants qui s'attendent à lui. Habacuc dit, je veillais pour voir ce que Dieu me dirait. Et au verset 2, il est dit, l'Éternel m'adressa la parole. La première fois, il avait crié à Dieu, disant, tu ne réponds pas. Et puis, Dieu lui avait répondu hein, dans le premier chapitre, ici. Et donc, certes, Dieu ne lui a pas adressé la parole instantanément, hein, comme pour Daniel, hein, si vous lisez Daniel dit qu'il n'avait pas encore fini de prier, qu'il a vu un envoyé, dans le chapitre 9, de Dieu qui venait. Cet envoyé lui dit, Daniel, quand tu as commencé à prier, la parole est sortie pour venir jusqu'à toi, déjà. Donc, il y avait quelque chose de quasi instantané, là. Ici, il n'est pas dit que Dieu a répondu forcément tout de suite, mais il n'en demeure pas moins que Dieu répond à Habacuc et lui adresse la parole. Dieu répond à la prière de ses enfants qui s'attendent à lui, toujours. Et on peut lire l'Écriture, on voit toujours que Dieu répond en son temps, mais il répond à la prière de ses enfants. Et il répond d'une manière qui lui est propre. Parfois, on pense qu'il n'a pas répondu parce que ce qu'on attendait, c'est autre chose. Mais il répond d'une manière qui lui est propre. Deuxième chose que je voudrais souligner dans cette réponse de Dieu, c'est que l'histoire n'est pas une suite d'événements accidentels auxquels Dieu tente de remédier ici. Mais l'histoire, c'est l'exact dessein de Dieu. Soit qui se déroule, c'est l'exact dessein de Dieu. Ce que Habacuc voit, ce n'est pas une suite d'événements qui échappent à tout contrôle, et puis Dieu derrière qui court, qui essaye de pallier, de corriger, de remédier à cela. Non, c'est ce que Dieu fait même qui est en train de se dérouler. Et donc, je dis que l'histoire n'est pas une suite d'événements accidentels auxquels Dieu tente de remédier, mais l'exact dessein même de Dieu. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et écrit cette prophétie, grave-la, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche, elle court à son terme. Et il va dire tout un tas de choses qui va arriver après aux Chaldéens. Ce qui est en train de se passer, et c'est le déroulement de l'histoire, c'est le dessein de Dieu avec le timing précis de Dieu. Et donc, ce qui frappe ici dans la réponse de Dieu, c'est qu'il présente sa solution au problème du péché, non comme un remède de dernière minute, ici, mais comme un processus en marche. Et c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme, ici. Quelque chose qui se développe conformément à un plan bien défini. Habacuc a beau croire que Dieu reste insensible, et que Dieu n'est pas soucieux de sa sainteté, que Dieu lui répond que ce qu'il voit ou ce qu'il ressent comme une inaction ou une incompréhension est en réalité le déroulement d'un plan sage du Dieu souverain. Et c'était comme cela que nous devons considérer les choses quand nous regardons autour de nous dans le monde. Nous n'avons pas à croire que les hommes font ce qu'ils veulent et peut-être que Dieu n'est pas au courant. Non, c'est ce qui se déroule. Ce qui se déroule, c'est ce que Dieu est en train de déroulée, d'accord, dans l'histoire. Il agit de manière, aujourd'hui même, de manière sage et souveraine dans notre monde. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons? Malgré les choses difficiles que nous voyons, Dieu agit de manière sage et il règne sur toutes choses. Dieu n'agit pas en réaction à ce qui se passe. Imaginez, Dieu n'agit pas en réaction à ce qui se passe, mais en acteur souverain. Il n'a pas besoin de regarder les chiffres de l'épidémie pour savoir s'il faut prendre telle ou telle mesure sanitaire. Nous, hommes, sommes obligés de faire comme ça. On attend l'intervention des représentants politiques pour savoir quelle décision prendre, parce qu'on est obligé de s'ajuster au jour le jour. On vit tout le temps dans la réaction. Mais Dieu, non. Dieu, non. Dieu n'a pas besoin d'attendre les chiffres du péché pour savoir quelles mesures salutaires il faut prendre non plus. La Bible nous dit que Dieu a déjà, dès avant la fondation du monde, pourvu et prévu un sacrifice pour le péché, avant même que le monde ne soit créé. Donc il n'agit pas en réaction, il est l'acteur sage et souverain. Et cela, c'est cela qu'il dit ici à Habacuc. Tu dois apprendre à attendre le temps de Dieu, parce que Dieu agit de manière sage et souveraine. Il n'est pas en train de réparer, courir après le monde pour réparer ce qui ne va pas. Ce qui se déroule, c'est l'exact dessein de Dieu. Et puis troisième élément dans la réponse de Dieu, je voudrais ajouter ceci, c'est que le dessein de Dieu s'accomplit avec certitude et exactitude. Non seulement c'est son dessein qui s'accomplit, mais ce qu'il dit s'accomplit avec certitude et exactitude. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, dit-il. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc il y a ici une dimension de certitude et d'exactitude dans ce que Dieu dit à Habacuc. Dieu souligne que ce qui arrivera, c'est exactement ce qui a été annoncé. Enfin, il y a des gens qui font des prophéties, hein, ils annoncent des choses, et puis il y a une partie qui ressemble à ce qu'ils ont dit, mais après, dans l'ensemble, c'est pas tout à fait ça. Hein. Donc après, et puis on noie le poisson dans l'eau en nous disant, ouais, ben non. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Il dit que ce qu'il a annoncé se fera, il dit que la prophétie ne mentira pas. On ne pourra pas la mettre en défaut, parce que c'est exactement ce qui est annoncé qui se produira. Ce qui est sorti de sa bouche se réalisera certainement et exactement dans les termes où il les a annoncés. Par exemple, on lit Ésaïe 48, il dit, Dieu dit dès longtemps, Ésaïe 48, toi, dès longtemps, j'ai fait mes premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche, je les ai publiées, et soudain j'ai agi, et elles se sont accomplies. Et on peut lire dans beaucoup de passages, notamment dans Ésaïe, d'autres endroits où Dieu parle et où il exprime vraiment le fait qu'il annonce des choses. Alors regardez Ésaïe, vous pouvez chercher celui-ci avec moi, Ésaïe, chapitre 46, c'est ça, oui. Ésaïe 46, et Dieu dit ici, verset 9, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc ce que Dieu annonce, hein, ce qu'il révèle, se réalisera avec certitude et avec exactitude. Ça, c'est la troisième chose qu'on peut voir dans cette réponse que Dieu donne. Et puis une quatrième aussi, c'est que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Des hommes. Le temps de Dieu, le calendrier de Dieu, on pourrait dire ça comme ça, hein, n'est pas le calendrier des hommes. C'est une prophétie, dit-il, dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire que les choses sont déjà délimitées, sont déjà déterminées. Alors, il a pu sembler à Habacuc que les choses traînent un peu, mais en réalité, dit Dieu, le temps du jugement est déjà fixé. Le sentiment de retard n'existe que du point de vue humain. Ici. Dieu tarde, pensons-nous. Mais c'est quelque chose qui est propre à l'homme de croire qu'il y a du retard. Mais pour Dieu, il n'y a absolument aucun retard ici. C'est ce que l'apôtre Pierre explique, par exemple, quand il dit dans 2 Pierre 3, verset 9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Donc Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Et on peut dire, les hommes, on le disait la dernière fois, les hommes prennent la longueur de temps qui s'écoule comme la preuve que rien ne va se passer, hein, et qu'on va vivre encore pour certains des millions et des millions d'années sans que rien ne se passe. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu ne tarde pas. Il y a un temps qui a été fixé pour chaque chose. Et c'est le propre de l'homme qui n'a aucune prise sur le temps de croire qu'ici où il y a du retard. Mais dans le calendrier de Dieu, les temps des choses sont déjà fixés. Et c'est ce que Dieu dit ici à Habacuc. Non seulement les temps des événements sont marqués, mais elles ne se produisent qu'au temps marqué. C'est pas juste que le temps est fixé et puis finalement, on est en avance ou on est en retard. Non, ça se passera exactement au temps qui est marqué. C'est ce que Dieu dit ici. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Daniel 11, verset 27 dit ceci. Il parle d'un moment donné. Il dit, les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il dit qu'il y a des choses que les gens vont essayer de faire qui ne vont pas pouvoir se produire parce que ce n'est pas le temps. Parce que ces choses-là sont prévues pour arriver au temps qui a été fixé par Dieu. Et la lecture, même rapide, de l'Écriture nous permet de voir combien cette réalité du temps fixé par Dieu imprime vraiment l'Écriture. Je vous donne quelques exemples. La sortie du peuple d'Égypte, du peuple de Dieu, la délivrance de l'Égypte. Eh bien, nous lisons ceci, que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. C'est précis quand même, Et au bout de 430 ans, le jour même, le texte dit le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Alors, quand on dit, si Pharaon avait laissé partir le peuple plus tôt, il serait parti plus tôt. S'il avait résisté peut-être davantage, ils seraient partis plus tard? Pas du tout. Ils sont partis le jour où Dieu avait prévu qu'ils partent. Résistance ou pas de Pharaon, c'était inclus aussi dans le plan de Dieu. Un autre exemple, la venue de Jésus-Christ dans le monde. L'Épître aux Galates nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, eh bien, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. C'était à un temps bien précis. Et même concernant la mort de Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, il dit ceci, il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Romains chapitre 5, verset 6. Et sa venue, sa mort, a été réalisée dans un temps bien précis. Un dernier exemple ici, concernant un événement, il dit que concernant le jugement du monde par Dieu, même cela s'est fixé aussi. Et l'apôtre Paul le dit dans son discours devant les philosophes à Athènes, et il dit ceci en Actes chapitre 17, versets 30 et 31, il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant et à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Parce qu'il a fixé un jour. Il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il parle donc de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est la preuve que Dieu jugera le monde un jour qu'il a déjà fixé. Ce jour existe dans le calendrier de Dieu. Nous ne le connaissons pas, mais il existe bel et bien. Et même la durée de notre vie est dans le calendrier de Dieu aussi. Le psaume 139 dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Alors, pour tous les hommes de la terre, tous, autant que nous sommes ici, autant que vous êtes là où vous êtes qui nous écoutez, la durée de votre vie est fixée avant même que vous ne soyez nés par le Dieu souverain. Et peu importe comment on meurt, jeune ou vieux, dans un accident de voiture ou comme certains disent, de vieillesse naturellement, ou que l'on se suicide, la durée, le jour de la mort est fixée par Dieu. Tout le reste n'est qu'instrumental. D'accord? Mais Dieu fixe toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et ça, c'est une vérité que nous devons apprendre à... On dit qu'il faut vivre avec le virus. Il faut vivre avec la vérité de la parole de Dieu et la réalité que, voilà, on peut faire des projets, mais on peut faire plein de choses, mais que les choses sont fixées par Dieu, que la durée même de notre vie est aussi fixée par Dieu. Et on peut mourir, que ce soit du Covid ou pas du Covid, ou de crise cardiaque ou autre chose. Le jour où on mourra, c'est le jour qui est déjà inscrit dans le calendrier de Dieu. Et donc la grande vérité ici, que le prophète Habacuc, en dépit de ce qu'il pense ou ce qu'il peut ressentir ou éprouver dans son incompréhension, ce qu'il doit retenir, c'est qu'il doit s'attendre à Dieu, d'une part, mais aussi attendre le temps de Dieu et se caler sur le timing de Dieu, parce que Dieu a défini toute chose avec une extrême précision. Il n'est pas en retard. Il agira à la seconde comme il a prévu de le faire. Parce qu'il dit les choses et puis les exécute certainement et avec exactitude. Je termine avec juste deux remarques en conclusion. Ici, premièrement, c'est que l'œuvre de Dieu consiste non pas à nous informer, mais à nous transformer. L'œuvre de Dieu n'existe non pas à nous informer, mais à nous transformer. Nous vivons dans l'ère de l'information instantanée, hein, n'est-ce pas? Chaîne info, notification WhatsApp, etc. Ça va vite, dès que quelque chose se passe quelque part, tout de suite, on est envahi par de l'information qui nous vient de toutes parts. Et il arrive que notre désir, parfois même en tant qu'enfant de Dieu, soit simplement d'être informé. Pourquoi? On veut savoir telle information, savoir pourquoi telle chose, pourquoi j'ai telle chose. Juste avoir cette information. Mais ça ne va changer rien pour moi d'avoir simplement une information. Alors, parfois aussi, ce qu'on fait, on zappe, hein. On va d'un prédicateur à l'autre, on zappe ceci. Parce qu'on veut recevoir juste des informations ici. Mais voyons que Dieu n'informe pas Habacuc sur les raisons qu'il a d'utiliser les Chaldéens pour châtier Juda. Mais il agit de manière à transformer son prophète, à faire maturer la patience dans son cœur, à faire qu'il attende le temps de Dieu, qu'il se cale sur le projet de Dieu, qu'il l'accepte même s'il ne comprend pas tout, qu'il se repose en Dieu même s'il ne saisit pas toute la sagesse avec laquelle Dieu agit dans les choses. Et donc, Dieu œuvre dans le cœur de son prophète. Le délai que Dieu met à répondre à ses enfants est bénéfique en ce sens qu'il produit en eux le fruit de l'esprit. Et donc, Dieu, quand il œuvre, son œuvre ne consiste pas à nous informer de ce qu'il fait simplement, mais à nous transformer. C'est son projet, nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et apprendre à s'attendre à Dieu est bénéfique pour le croyant. Psaume 37:7 dit « Demeure tranquille », alors je lis dans la version Darby, il dit « Demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel, attends-toi à lui. Ne t'irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il triche, mais on venait sur la route ce matin, et puis je trouvais que les feux, il y avait trop de feux. Les feux étaient longs, il y avait trop de feux, et le tram, quand on prend le tram, c'est fini. Hein. On ne peut pas aller plus vite que le tram. Je trouve qu'ils ont fait exprès, je pense. Ouais. Mais après, il y a un feu qui arrive, on arrive à un feu rouge. Il y avait un homme à côté de nous, on arrive à un feu rouge, et puis on s'arrête, et lui, il continue au feu rouge. Il passe, alors, il grille le feu, bien sûr, et puis il arrive là-bas, et puis le feu là-bas est vert. Et après, on dit, ah, lui au moins, il a le feu vert là-bas. Il dit, oui, mais pour avoir le feu vert là-bas, il a fallu tricher ici. Hein. Et parfois, on est un petit peu comme ça. Et on regarde le méchant, un peu comme ce verset, qui réussit dans sa voie. Et on s'irrite presque parce que, en trichant, il bénéficie de quelque chose ici. Mais l'Écriture dit ici, demeure tranquille. Appuyé sur l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Et Lamentation dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et puis encore un verset dans Isaïe 40, verset 30, qui dit, les jeunes gens, ça c'est le verset de Jacob et moi, ça, hein, les jeunes gens seront las et se fatigueront. Les jeunes hommes deviendront chancelants, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront comme les ailes, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront, ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Alors je dis que c'est moi. Verset avec Jacob, parce que on s'était un peu encouragé avec ce verset-là quand on disait qu'on était fatigué. Il dit que l'Éternel nous renouvelle et nous donne, hein, la force de voler comme des aigles. Mais il le fait avec ceux qui s'attendent à lui. Et donc Dieu veut faire maturer la patience dans le cœur de ses enfants. C'est pour ça qu'il ne se contente pas d'informer, de répondre simplement à leurs questions. Mais il agit de manière à les transformer. Deuxième remarque pour la conclusion, c'est que le dessein révélé de Dieu doit être reçu et annoncé. Le dessein révélé de Dieu doit être reçu et annoncé. Verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc Dieu parle à son prophète, non seulement pour qu'il reçoive la parole, mais pour aussi qu'il la mette d'une manière à ce qu'elle puisse être lue aussi par les autres, et donc annoncée aux autres. Dieu demande à Habacuc de graver par écrit ses paroles d'une manière à ce que sa lecture soit compréhensible et qu'on puisse la lire avec facilité, couramment. Et donc, la parole n'est pas destinée au prophète seulement. C'est pas juste un petit tête-à-tête entre Dieu et son prophète, toi et moi, et puis rien que nous. Hein? Non, c'est pas du tout ça. Quand Dieu s'adresse au prophète, il s'adresse pour le prophète aussi, mais il veut que cette révélation serve aussi à tous, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est destiné à un cercle d'initiés ou qui est circonscrit en un certain lieu. Elle doit pouvoir être à la portée de tous afin de guider tous en les éclairant sur la vérité, afin qu'ils connaissent la vérité de la parole de Dieu et qu'elle puisse les éclairer aujourd'hui encore même dans leur chemin. L'apôtre Paul rappelle cela aux Corinthiens. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu. L'apôtre Paul l'a reçu lui-même, il l'a annoncé, les autres l'ont reçu, ils doivent encore l'annoncer. Et Dieu, c'est ce qu'il dit ici à Habacuc, hein, il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables et afin qu'on la lise couramment. Ne la cache pas, ne la laisse pas cacher, mais révèle-la afin que les gens puissent la connaître et qu'ils puissent connaître la vérité. Et on a lu tout à l'heure le passage de Actes chapitre 17, verset 30. Hein, c'est Dieu lui-même qui annonce son dessein et qui appelle tous les hommes à la repentance. Et cela doit être reçu. Cela doit être reçu. Donc la révélation de Dieu, nous, ce que nous devons faire avec, ce n'est pas de chercher à répondre au pourquoi et au questionnement des gens. Nous n'avons pas plus de réponses à donner qu'à cela, mais nous avons à présenter la parole de Dieu. À le recevoir déjà premièrement telle qu'elle est, et puis à l'annoncer aux autres. Parce que ce dont les hommes ont le plus besoin, ce n'est pas la réponse aux questions difficiles de la vie. Nous n'avons pas ces réponses. Les gens qui disent nous avons la réponse, c'est pas vrai. Personne n'a la réponse à quoi? Personne n'a la réponse à pourquoi le virus il descend tout de suite. On ne sait pas. Hein. Pourquoi il est venu? Pourquoi? Personne n'a ces réponses.
ni scientifique, ni vous, ni moi. Mais ce dont nous avons la certitude, c'est qu'il y a une question qui est grave, c'est la question du péché, et qu'il y a un jugement à venir. C'est ce que Dieu dit ici à Habacuc, quand il parle des malheurs, on n'a pas vu ça aujourd'hui, mais des malheurs qui vont tomber sur les Chaldéens. Il y a un jugement, Dieu juge toujours le péché. Mais que Dieu a pourvu au moins la solution en Jésus-Christ, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il annonce à tous les hommes, Dieu lui-même annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir de leurs péchés. Et le temps que nous vivons n'est pas un temps de retard ou de quoi que ce soit, c'est un temps où Dieu exerce encore sa patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais n'oublions pas que sa parole est certaine. Je relis ce verset ici. Sa parole est certaine ici que la prophétie marche vers son terme et qu'elle ne mentira pas. Et qu'elle, si elle semble tarder à notre esprit humain, nous devons attendre parce qu'elle se réalisera certainement. Et nous avons lu le dernier verset d'Hébreux 9:28, où il dit que Christ apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent. Il apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent. Mais pour l'attendre véritablement dans cette seconde venue, il faut le recevoir déjà dans le temps présent. Que le Seigneur nous guide et imprime sa parole dans notre cœur. Nous allons prier. Te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole qui est la vérité. Merci pour l'exemple du prophète Habacuc qui a attendu et qui a reçu, qui a cru à ce que tu lui as annoncé, même si tout n'était pas évident à saisir. Et nous te prions de nous remplir de cette sainte attitude à l'égard de ta parole. Donne-nous des cœurs pour recevoir ta parole. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être omnibulés par les réponses à nos pourquoi, mais vraiment que nous puissions rechercher à nous attendre à toi, à te faire confiance, Seigneur, à nous appuyer sur toi, à nous reposer sur ce que nous savons de toi. Et nous te prions, Seigneur, que tu agisses dans nos cœurs, que tu agisses dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, afin que tu puisses te révéler à eux à travers ta parole. Que ta parole qui a été écrite, qui a été gravée sur des multisupports que nous avons maintenant de notre temps moderne, puisse être lue et qu'elle puisse être reçue, afin que ceux qui la reçoivent puissent avoir la vie en toi. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.